Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Louis Lacroix, pour ne rien manquer de l'actualité.
La météo aujourd'hui, ce qu'on prévoit, c'est une alternance de soleil et de nuages. Il y aura quelques chutes de neige qui vont débuter tôt ce matin et vont cesser en mi-journée. Mais on parle pas là de traces vraiment importantes. D'ailleurs, il n'y a pas d'accumulation notée là, par Environnement Canada. Donc, il va faire quand même assez froid aujourd'hui. Ça tourne autour de 2 degrés. Vendredi, alternance soleil-nuages, il fera plus 4. Samedi, de la pluie avec 8 degrés et du soleil prévu pour dimanche avec 0 degré. Puis si on regarde à plus long terme, là, il pourrait y avoir de la neige ou encore de la pluie mardi prochain. Mais donc, c'est à très long terme. Pour l'instant, ça va rester vert à l'extérieur de nos murs. Bon, hier, c'était bien sûr le discours d'ouverture de François Legault. J'ai écouté ça avec beaucoup d'attention, puis je suis un petit peu resté sur mon appétit, pour être très honnête. Moi qui a couvert la campagne électorale complète de François Legault à bord de l'autobus, je vais vous dire une chose. J'avais l'impression d'avoir une espèce de condensé d'un peu plus d'une heure de tout ce que M. Legault a dit durant la campagne électorale. Puis je faisais une blague hier avec des amis en disant, s'il nous avait fait ce discours-là au début de la campagne, on aurait sauvé 35 jours de travail. Alors, M. Legault veut sauver notre langue. Il en a fait sa priorité. C'est ce qu'on dit ce matin dans le Journal de Montréal, mais à peu près dans tous les quotidiens, bien sûr. Un accent mis particulier là sur la préservation du français. Il a aussi dit, M. Legault, que la loi 96 qui a été adoptée l'an passé et qui entre en effet là de façon épisodique là dans le temps, ben c'est pas suffisant. Il va falloir avoir d'autres mesures pour essayer de préserver le français au Québec. De l'aveu même là de monsieur Legault, on vise une immigration peut-être à 100% francophone, bien que des ministres déjà dans son cabinet qui amènent certains bémols. Je voyais hier Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'économie, qui dit « Ouais, je suis d'accord avec ça, sauf que dans le cas de certaines filières, comme la filière batterie, entre autres choses, si on veut attirer des gens, des chercheurs qui vont développer cette filière-là, ben peut-être qu'il va falloir accepter qu'ils ne parlent pas français. » Mais en fait, il y a aussi d'autres grands dossiers qui ont été amenés par M. Legault, entre autres l'électricité, l'hydroélectricité. Il est revenu sur ce qu'il avait dit en campagne électorale. C'était à peu près à mi-campagne dans le secteur de Bécancour quand il a dit, ben écoutez, il faut construire un demi Hydro-Québec. Hydro-Québec, en ce moment, a une capacité de 200 TWh. Et ce qu'il faudrait faire, c'est construire la moitié de ça pour aller, pour avoir suffisamment d'énergie pour se lancer dans les grands projets de réduction des gaz à effet de serre, les fameux GES, là, qu'on veut réduire, bien sûr, pour atteindre nos cibles. M. Legault a dit, il va falloir des barrages parce que l'éolien, ça suffit pas. Le solaire, c'est pas stable non plus. Puis, on veut pas se lancer dans le nucléaire. Donc, il va falloir trouver des solutions pour amener davantage d'électricité. Puis, les barrages, semblent être l'option que M. Legault veut détenir. Mais il dit, ça prend 15 ans, là, développer des barrages, c'est-à-dire trouver où on le fait, puis faire les plans, puis ensuite lancer les chantiers. Ça prend une quinzaine d'années et il faut donc se décider maintenant, savoir où on les fait, puis quelle va être la capacité de ces barrages-là. Donc, il y a une sorte d'urgence là qui a été amenée hier par M. Legault. On sait que Hydro-Québec est pas très entiché. Madame la présidente d'Hydro-Québec est pas très entiché à faire des nouveaux barrages, mais là, il semble que va falloir y aller et assez vite. Et des mini-hôpitaux privés modèles, ça, c'est encore une fois une promesse qu'avait faite François Legault en campagne électorale, là, des espèces de petits hôpitaux qui seraient gérés par le privé, mais dont les coûts là pour les patients seraient payés par la RAMQ. Alors donc il y a un paquet de petites choses là qui ont été égrenées durant ce discours hier de François Legault, mais je pense qu'il faut retenir davantage la protection de la langue française. On va y revenir un peu plus tard dans cette émission. Et d'ailleurs, c'est intéressant, ce qu'on dans deux quotidiens ce matin, La Presse et le Journal de Montréal, on parle qu'il y a moins de Français au travail si on se fie aux données du recensement de 2021 qui porte sur la langue parlée au travail. Ben on se rend compte qu'il y a une petite erreur dans le Journal de Montréal là, parce qu'on dit un travailleur sur quatre, mais c'est 20%. C'est 79,9% des gens qui parlent le français au travail. Ça veut dire qu'il y a 20% des gens qui ne le parlent pas ou qui parlent anglais au travail. Puis là, on dit que c'est 1 sur 4, mais 20% c'est 1 sur 5. Là. Alors, il faut avoir les bonnes proportions. Mais en tout cas, ce qu'on dit, les données, ça change rien au pourcentage. Là, en 2021, 79,9% des Québécois indiquaient parler principalement le français au travail. Mais quand on se reporte à 2001, le recensement à l'époque, c'était 81,8%. Alors, c'est en baisse. Et puis, dans le secteur de Montréal, évidemment, c'est encore plus problématique. Là, en 2001, c'était 71,8%. On est rendu à 70 et évidemment ça recule. Alors il faut bien sûr essayer de freiner cette baisse là. On va recevoir, comme je le disais tout à l'heure, Jean-François Roberge, le ministre responsable de la langue française, avec nous un peu plus tard pour essayer de comprendre ce qu'on va faire là, pour essayer de freiner tout ça. Et dans la Gazette, c'est intéressant aussi cette donnée là. On parle beaucoup parce que eux autres, ce qui intéresse la communauté anglophone, bien sûr, c'est la protection de la minorité anglophone au Québec. Et ce qu'on dit dans un article en page A3 dans le journal de Gazette, c'est que il y a près d'un million d'enfants canadiens qui vont pouvoir aller à l'école dans la langue de la minorité à travers le Canada. Alors dans le reste des provinces canadiennes, c'est bien sûr des enfants francophones qui vont pouvoir fréquenter des écoles francophones parce que ils ont des droits qui sont protégés par la Constitution. Mais au Québec, selon les données du recensement, il y a 304 000 enfants au Québec qui ont le droit d'aller à l'école anglaise. Donc, il y a 593 000 enfants de langue française qui, eux, pourraient étudier en français. Mais c'est quand même 304 000 enfants chez nous qui pourraient fréquenter en ce moment là, les écoles anglaises. Ça veut pas dire que tous les enfants le font, tous les parents veulent que exercer ce droit-là, mais c'est quand même une donnée qui est intéressante là quand on regarde justement l'avenir du français au Québec. Bon, évidemment, notre regard sera de nouveau tourné vers l'Assemblée nationale aujourd'hui, ce matin en réalité, parce que les travaux vont reprendre avec les affaires courantes un petit peu avant 10 heures ce matin. Et les trois députés péquistes qui n'ont pas prêté serment au roi vont tenter de siéger aujourd'hui. Alors, ce que ça veut dire en réalité, c'est qu'on va mettre la pression sur la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale, Nathalie Roy, qui va devoir prendre une décision. Est-ce qu'elle laisse les trois députés péquistes entrer au Salon Bleu, ou encore est-ce qu'elle va suivre la directive qui avait été donnée par l'ancien président François Paradis au début du mois de novembre, de dire si t'as pas prêté serment au roi, tu peux pas siéger. Alors donc ça pourrait faire en sorte que la sergente d'armes interdise l'accès au Salon Bleu aux trois députés. Alors là, il faut essayer de trouver une voie de passage, et c'est Nathalie Roy qui va devoir essayer de négocier ça avec les leaders des autres partis, j'ai l'impression. Moi, je pense que ce qu'on va faire, c'est essayer de trouver une façon là de faire plaisir à tout le monde, c'est-à-dire on a déjà dit là que il y aurait une loi déposée rapidement pour permettre aux députés de ne pas prêter serment au roi, et puis qu'on voulait la faire adopter avant la fin de la session. Même Marc Tanguay, le chef intérimaire du Parti libéral, a dit qu'il était d'accord avec ça hier. Donc, j'ai l'impression que c'est ça qu'on va faire, qu'on pourrait leur permettre d'entrer au Salon Bleu, mais en leur enlevant certains privilèges, comme celui de voter sur des motions ou sur des lois, parce que leur vote ne serait pas reconnu. Alors, est-ce que c'est ça qu'on va proposer aux députés du Parti québécois, ou il y a d'autres solutions là, qui pourraient qui pourraient être explorées. En tout cas, on verra un peu plus tard, là, ce matin, vers 10h, on va en avoir le cœur net. Bon, parlons maintenant, on a beaucoup parlé au cours de la semaine du cas de cet homme de la région de Trois-Rivières, Eduardo Malpica, qui est porté disparu depuis vendredi. Ben, il y a de nouvelles informations qui laissent croire que M. Malpica serait en vie. Des informations qui sont parvenues à la police de la ville de Trois-Rivières. Il y a un témoin crédible, dit-on, qui l'aurait vu et qui aurait échangé avec lui au parc Victoria dans le secteur Saint-Philippe dans la journée de samedi vers l'heure du midi. C'est un article de Radio-Canada ce matin qui nous apprend ça. Depuis le samedi 26 novembre, il y a des recherches intensives qui ont cours pour essayer de le retrouver. C'est un homme de 44 ans. Il est porté disparu depuis 2h15 du matin le samedi. Là, il s'était rendu dans un bar, le Zénob, pour célébrer avec des collègues de travail le vendredi. Puis finalement, il y a eu une altercation dans le bar. On sait qu'il est sorti du bar ensuite et on ne l'aurait pas revu. Ben, en fait, on croyait ne pas l'avoir revu, mais là, il y a un témoin qui dit « Moi, je l'ai vu dans le parc. J'ai même jasé avec lui. Et c'était samedi midi. » Alors, est-ce qu'il est toujours en vie? Est-ce qu'il se cache quelque part? Je sais pas, de peur d'être arrêté ou quoi que ce soit. En tout cas, la police de Trois-Rivières dit, nous autres, on veut que ça se sache, là, cette information-là, parce que on n'a rien contre lui. On va pas l'arrêter. On n'a pas d'information qui permettrait de porter quelque accusation que ce soit contre lui. On veut juste mettre ça derrière nous et clore cette enquête. Donc, s'il est toujours vivant, peut-être qu'il y a des problèmes psychologique aussi, peut-être qu'il est embarqué dans une histoire. En tout cas, ce qu'on veut, là, c'est essayer de le retrouver, mettre fin à cette enquête, à cette recherche. Mais évidemment, ça rassure jusqu'à un certain point les proches de monsieur Malpica, mais ça ajoute une couche de mystère sur cette histoire. Pourquoi, s'il est toujours vivant, est-ce qu'il se serait retiré de cette façon-là? Bon, je vous parlais également hier, c'est intéressant, là, cette histoire. Je veux essayer de faire le point là-dessus rapidement, mais hier, je vous parlais de ce qui s'est passé dans le comté de Saint-Laurent, qui est le comté de Marois-Risky, qui a été réélu, soit dit en passant, avec une forte majorité lors de l'élection du 3 octobre. Mais le journal Le Devoir a fait une enquête parce que dans un des pôles de vote, la section de vote 144, la circonscription, on avait comptabilisé presque aucun vote pour les libéraux. Je pense qu'il y en avait 4, une affaire de même, mais c'était pas beaucoup. Puis là, eux autres, il y a deux journalistes, Lauriane Croteau et Marco Belair-Cerino, qui se sont rendus dans le secteur, qui sont allés parler aux gens dans ce pôle de vote-là. Puis il y a un paquet de gens qui leur ont dit, ben moi, j'ai voté pour le Parti libéral, finalement. Puis il semble que les votes n'aient pas été comptabilisés. Alors, ça soulevait un certain questionnement à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'on a perdu des boîtes de vote? Est-ce que on a éliminé ces votes-là, etc.? Donc, il y avait une espèce de mystère là, autour de ça. Et puis, il y a plusieurs voix, dont celle de Marois-Risky, qui a dit, ben peut-être que le DGEQ pourrait enquêter là-dessus. Il aimerait ça en avoir le cœur net, savoir ce qui s'est véritablement passé. Ben le DGEQ a décidé, le directeur général des élections, Pierre Reid, a décidé de ne pas ouvrir d'enquête sur les résultats de cette section de vote parce que, croit-on, les seuls éléments qui ont été soulevés dans le reportage ne permettent pas l'ouverture d'une enquête pour une possible contravention à la loi électorale visant une ou des personnes. C'est ce qu'a dit le porte-parole d'Élections Québec, Gabriel Sauvé, le siège par courriel envoyé au Devoir hier. Alors, il n'y aura pas de suite à ça, mais quand même, le mystère demeure sur la section de vote 144. Comme je le disais tout à l'heure, ça n'aurait pas changé le résultat du vote parce que la majorité de Mme Risky est si grande que ça n'aurait pas fait de différence. Mais quand même, ça demeure un mystère. On ne saura peut-être jamais ce qui s'est passé dans cette section de vote. Bon, on en parlait tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui ont la grippe par les temps qui courent, qui ont cette espèce d'infection respiratoire, et surtout chez les enfants. Eh bien, sachez que les absences scolaires atteignent de nouveaux sommets. Selon le journal La Presse, ce matin, les données là, sont encore plus inquiétantes que lundi dernier. Il y a une semaine, en fait. Lundi dernier, ce lundi-ci, plus d'un élève sur 10 était absent des classes. C'est une nouvelle augmentation par rapport à la semaine précédente. il y avait 158 026 élèves qui s'étaient absentés. C'est 12,7% des élèves du préscolaire, primaire et du secondaire, de la formation professionnelle d'éducation des adultes également. Donc, il s'agit de 8 000 jeunes de plus que la semaine précédente. Tout ça, bien sûr, bon, il n'y a pas juste la grippe, là. Il y a un peu de COVID là-dedans, mais pas beaucoup. La grippe, évidemment, puis il y a toutes les raisons normales qui font en sorte que des enfants ne vont pas aller à l'école. Des fois, il n'y a pas juste la maladie, il y a d'autres raisons. Mais quand même, il reste que c'est la grippe a un effet assez important jusqu'au point, il y a des professeurs, il y a des gens qui s'inquiètent de la réussite scolaire des enfants parce qu'on se dit, ben là, c'est bien beau là d'être absent de l'école, mais peut-être que ça pourrait avoir une incidence sur les résultats scolaires. Est-ce qu'on prend les bons moyens? On sait que la santé publique a recommandé le port du masque dans les endroits publics sans l'obliger pour l'ensemble des Québécois. Mais pour les élèves qui fréquentent les écoles, on ne l'oblige pas. Alors, il y a plusieurs voix qui s'étaient élevées en disant, ben, le problème vient principalement de là. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Mais je pense que c'est le gros bon sens qui s'applique pour l'instant. Le rôle des écoles est de s'assurer que les élèves malades restent à la maison, explique Kathleen Legault, qui, elle, travaille à l'Association montréalaise des directions d'établissements scolaires. Évidemment, eux autres comptabilisent à tous les jours les élèves qui sont pas là, mais on comprend qu'il faut utiliser le gros bon sens. Quand l'enfant est trop malade pour aller à l'école, tu le gardes à la maison. Mais de tout temps, évidemment, des nez qui coulent dans les écoles, là, on a vu ça, là. Mais là, ça commence à prendre des proportions qui sont assez importantes. Et tiens, je veux parler de cette histoire-là qui est assez inquiétante. Le journal le Globe and Mail ce matin rapporte que le gouvernement du Canada a demandé des explications à l'ambassadeur de Chine pour savoir qu'est-ce qui se passe avec s'il y a au Québec ou au Canada des espèces de postes de police opérés de façon illicite par le gouvernement chinois au Canada. Et c'est une organisation qui s'appelle Safeguard Defenders, qui est basée en Espagne et qui a fait une recherche là-dessus, une enquête qui démontre que dans plusieurs pays, la Chine a installé des postes de police clandestins qui mettent de la pression sur les ressortissants chinois dans ces pays-là. Il y en a beaucoup, on sait, au Canada, notamment dans la région de Toronto et aussi dans la région de Vancouver, et qui mettent de la pression sur ces postes, sur ces ressortissants-là pour qu'ils retournent en Chine. Alors, donc, on a demandé, évidemment, c'est illégal, là, ces postes-là. Ce qu'on dit du côté de l'ambassade de Chine, ce qu'on a dit au Globe and Mail, c'est que on reconnaît qu'il y a bel et bien des bureaux qui ont été ouverts pour aider les ressortissants chinois, par exemple, à obtenir des permis de conduire, tout ça, quand ils retournent en Chine, mais que ça s'apparente à des services consulaires. Or, selon la loi internationale, les services consulaires doivent être donnés soit dans des consulats ou encore dans des ambassades et non pas dans des postes ou des espèces d'agences là, qui sont ouvertes un peu partout. Mais il y aurait 4 de ces postes de police clandestins qui auraient été ouverts, notamment dans la région de Toronto. On s'inquiète de ça, bien sûr, au gouvernement du Canada, parce que ça, c'est comme une autre tranche là sur le dessus de tout ce qui se passe en termes de relations diplomatiques entre le Canada et la Chine. Et je vais terminer avec ça, une lettre ouverte ce matin dans le journal La Presse. Moi, ça me touche personnellement, cette histoire-là, mais je trouve que le message est quand même intéressant et quand même touchant. C'est une dame qui s'appelle Sophie Leblanc et qui a un enfant qui est aux prises avec la leucémie. Et elle dit « Le cancer de mon enfant comme une deuxième hypothèque ». Et elle dit, dans cette lettre ouverte, elle dit « Le cancer entre dans ta vie sans invitation. Une journée et tout change. Un matin, tu te réveilles. Tu vas embrasser ton enfant dans son lit et le soir, tu fais la routine du dodo dans un lit d'hôpital. L'amour est le même, mais plus rien n'est pareil. » Et en mars 2020, Madame Leblanc explique que sa planète s'est arrêtée pour elle. Là, son monde s'est écroulé. 90% du sang de son fils comportait des cellules cancéreuses, leur a dit le médecin. Alors, son garçon qui s'appelle Jaden n'avait que 17 mois. Le diagnostic était foudroyant. Il avait la leucémie. Et là, elle dit les priorités changent. Mais ce qu'elle dit, c'est que t'es pas prêt à ça. Il y a aucune famille qui est prête à accueillir un drame comme celui-là. Moi, je l'ai vécu chez moi là avec mon petit-fils qui est en rémission d'un cancer fulgurant. Puis évidemment, il y a des frais qui sont liés à ça. Elle vit à Mont-Laurier, puis il a dû faire la route entre Mont-Laurier et Montréal à toutes les semaines parce qu'il fallait des traitements pour son enfant. Puis ça, ben c'est jamais calculé hein, dans ton budget familial. Puis quand ça arrive, ben évidemment, ça amène vraiment des dépenses importantes. Elle dit que c'était 1 200 $ par mois juste pour les déplacements. Alors, c'est comme une hypothèque, une deuxième hypothèque que tu prends. Alors, elle veut sensibiliser, justement, les gens à cette situation-là. Puis, elle nomme Leucan, là, qui, bien sûr, vient en aide. Et moi, j'ai vu à quel point Leucan peut aider les familles qui sont aux prises avec des problèmes de cancer comme ceux-là, surtout des enfants. Alors, si vous avez peut-être des fois un petit peu d'argent de côté ou pour des bonnes causes, ben Leucan peut en être une. D'ailleurs, il y aura les 24 heures tremblants auxquelles je vais participer la fin de semaine du 10 décembre. Alors, si jamais vous avez peut-être un petit peu d'argent à donner à Leucan, ben ça pourrait aider des familles comme celle de Madame Leblanc.
L'essentiel de Louis Lacroix pour ne rien manquer de l'actualité.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
François Legault, hier, l'a dit dans son discours d'ouverture à l'Assemblée nationale. La priorité, ben, c'est la langue française, la protection de la langue française. Il faut en faire une espèce de débat national ou d'enjeu national pour essayer de préserver la langue française. Les données statistiques sont assez éloquentes quand même. Là, quand on, dans le Journal de Montréal ce matin, quand on regarde les statistiques du dernier recensement en 2021, on se rend compte qu'il y a un déclin, là, même de la langue au travail. Il y a de plus en plus de gens qui travaillent en anglais au Québec, de plus en plus de gens, même la ville de Montréal, de moins en moins de gens qui parlent français. Bref, c'est un enjeu qui est très important. Le ministre responsable des relations canadiennes, de la francophonie canadienne, des institutions démocratiques et de la langue française, et Jean-François Roberge, il est avec nous. Bonjour, Monsieur Roberge.
Bonjour, Monsieur Lacroix. Vous mettez bien à la table. Vous avez raison de parler des indicateurs sont tous au rouge quand on regarde le français au Québec.
Bon, c'est un gros défi que vous avez là parce que M. Legault l'a admis lui-même, la loi 96 qui a été adoptée l'année passée sera pas suffisante pour préserver le français. Alors, qu'est-ce que vous allez faire?
Bien, juste faire un petit point sur la loi 96. À elle seule ne règle pas tous les problèmes, mais c'est vraiment le socle sur lequel on peut bâtir tout le reste. La loi 96 nous permet d'assujettir les entreprises de compétences fédérales à la Charte de la langue française, nous permet d'édicter un guichet unique qui va s'appeler Francisation Québec. On est en train de bâtir ça en ce moment. Et la langue française vient vraiment travailler aussi sur le français comme langue de travail. Mais il va falloir faire plus, vous avez raison de le dire.
Ouais.
Sébastien Proulx le disait avec vous il y a quelques minutes. Bien sûr, l'immigration, c'est une des clés, mais il n'y a pas que ça. Culture, enseignement supérieur, emploi, éducation. Donc, je travaille vraiment très fort avec tous mes collègues ministres pour arriver avec quelque chose de très costaud comme plan gouvernemental.
Ben, vous dites que la loi 96, c'est une base sur laquelle on peut travailler. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas faite plus contraignante si on se rend compte maintenant que cette loi-là n'est pas suffisante? Puis il y avait beaucoup de gens qui le disaient, même le Parti québécois le disait, Québec solidaire le disait, la loi 96 n'a pas suffisamment dedans pour protéger le français au Québec. Puis pourtant, on n'a pas donné davantage de dents à ça. Prenons juste le cégep. La loi 101 au cégep, par exemple, ça c'est encore une fois écarté. Alors pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé de façon plus vigoureuse dès le départ?
Quand on dit que la loi 96, c'est un socle qui nous permet de régler beaucoup de problèmes et qu'on doit faire autre chose, les autres choses qu'on va faire, c'est pas nécessairement des lois. Donc, c'est pas parce que la loi est inadéquate, parce que si on veut faire des politiques d'immigration qui nous permettent de sélectionner davantage d'immigrants économiques francophones, pas une question législative. Si on veut vraiment améliorer nos programmes d'enseignement du français dans nos écoles secondaires et primaires, ben, c'est c'est pas juste des lois. Donc, il y a les lois, bien sûr, mais il y a aussi les règlements, il y a les politiques gouvernementales, il y a les budgets aux organismes. Donc, c'est vraiment, je vous dirais, multi-fonction, multi-ministériel, ce qu'on est en train de, okay, de bâtir.
Alors, donnez-moi concrètement des mesures que vous allez essayer d'imposer aux Québécois ou de mettre en place pour qu'il y ait une meilleure présence du français.
Bien, je suis content que vous disiez le mot imposer aux Québécois. On ne veut pas imposer quelque chose aux Québécois. On veut travailler avec eux. Puis la première chose à faire, vous l'avez fait en partant, là, vous avez ramené les chiffres. Sur l'île de Montréal, c'est maintenant moins d'un Montréalais sur deux là, qui parle français à la maison. Vous avez parlé de la langue de travail. On a besoin de prendre conscience de ça, là. On ne va pas dans la bonne direction. Ça prend un grand réveil national, suivi d'une grande mobilisation nationale, et ça va nous permettre au gouvernement de poser les gestes importants. Quand je vous ai dit immigration, mais aussi culture. On consomme beaucoup de culture de manière numérique. Je pense pas qu'on va reculer là-dessus. Hein. La technologie avance. Maintenant, comment on fait pour mieux rendre accessible la culture québécoise, la culture francophone sur les plateformes numériques? Ça, c'est un des chantiers sur lesquels je vais travailler avec mon collègue Mathieu Lacombe. Et ça va être très concret.
Mais, écoutez, le Québec peut pas se mettre en marge du reste de l'univers là. Puis tu sais, avec la facilité d'accès à la culture, par exemple anglophone, les séries qui viennent des États-Unis, qui viennent d'ailleurs dans le monde, etc., qui sont traduites en anglais, sont accessibles à tout le monde. Hier, je donne un exemple. J'ai des amis. J'étais chez des amis hier. Il y a 4 jeunes filles qui sont là, des adolescentes là, autour de 13-14 ans. Puis là, je les entends discuter entre elles. Puis maintenant, il y en a une qui dit. Hey, la série, une telle, là, une série américaine, c'est donc ben insane. Alors, plutôt que de dire c'est donc ben extraordinaire, c'est donc ben bon, c'est donc ben fantastique, elle a utilisé le mot insane. Alors, tu sais, petit à petit, d'abord, ils écoutent ça, et deuxièmement, ils intègrent dans leur langue de tous les jours, dans leur façon de parler, des mots anglais. Comment est-ce qu'on peut les empêcher, les mettre à l'abri de ça? C'est impossible.
Mais là, le gouvernement sera pas la police de la langue dans chaque maison, dans chaque salon.
Je comprends.
Je comprends les Québécois, mais je suis avec vous sur ce danger-là. Et c'est là où ça prend une grande mobilisation. Il faut se surveiller soi-même. Ça m'arrive, écoutez, d'utiliser des termes anglais au milieu d'une phrase en français. Je me rends compte, je me reprends moi-même. Il faut faire attention au fameux franglais. Hein. Être bilingue là au Québec, c'est d'abord posséder parfaitement la langue française en matière, être capable de travailler, de s'exprimer en anglais. Mais mélanger les deux langues, puis faire commencer des phrases en français, les terminer en anglais, c'est pas souhaitable, d'accord? Évidemment que c'est pas souhaitable. Vous parliez tout à l'heure des séries, puis on n'empêchera pas, on ne mettra pas un mur numérique autour du Québec pour empêcher les séries étrangères d'entrer chez nous. Mais beaucoup de Québécois ont écouté la série Casa de Papel, série espagnole.
Ouais.
Mais je sais qu'il y a des gens autour de moi qui, par réflexe, l'ont écoutée en anglais. Écoutez, elle a été tournée en espagnol. Tant qu'à l'écouter traduite, doublée, est-ce qu'on peut l'écouter en français? Voyons donc. Il y a énormément de productions québécoises de grande, grande qualité. Faut améliorer la découvrabilité de toutes ces séries, de tous ces films et l'accessibilité. Donc, il y a beaucoup à faire. Il y a à boire et à manger. C'est pour ça qu'on commence dès le début du mandat.
Bon. Vous parlez d'un réveil national. Jusqu'à maintenant, j'ai pas entendu une seule mesure concrète que vous allez faire. Ça va être quoi? Ça va être des campagnes publicitaires? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Donnez-moi une mesure, là, que vous pourriez mettre de l'avant, rapidement pour essayer de changer cette tendance.
Ben, faut inverser la tendance, d'accord? Il y a la loi 96 qui commence à s'appliquer. Hein. Écoutez, ça fait quoi? Cinq, six mois qu'elle a été adoptée. On va en mesurer les effets dans les prochaines années. Quand la loi 101 a été adoptée, on n'a pas mesuré l'impact de la loi 101 sur le Québec 3, 4, 5 mois après. La loi 96 s'en vient. Le discours inaugural du premier ministre qui met le français de l'avant, c'est un élément. Regardez aujourd'hui, là, comme dit l'expression, tout le monde en parle. Moi, je vais être très présent. Ensuite, oui, il va y avoir des campagnes de publicité. Donc, information, grand réveil national, mobilisation, politique gouvernementale, parce qu'on va jouer notre rôle. Hein, le gouvernement a des gestes à poser. Politique gouvernementale ambitieuse dans plusieurs ministères, pas seulement au ministère de la langue française. Et on espère, comme ça, en fait, on est confiant d'être capable d'inverser la tendance pour que quand on va regarder les chiffres dans les prochaines années, ben on arrête de voir le déclin du français comme langue de travail, comme langue parlée à la maison, et que ça remonte. Mais c'est vraiment multifactoriel. Et le gouvernement ne pourra pas sauver le français sans avoir l'appui des Québécois. Donc, ça doit partir de la base. C'est essentiel.
Bon, vous êtes également responsable des relations canadiennes. Évidemment, il y a un enjeu important, c'est l'immigration. M. Legault veut avoir 100% de l'immigration là, d'ici 2026. Qui entrerait au Québec, qui serait francophone, qui aurait une base là ou qui parlerait français. Est-ce que c'est réaliste de penser qu'Ottawa va donner les commandes totales au Québec sur l'immigration? Quand on voit ce qui se passe avec les réfugiés, le chemin Roxham, toutes les demandes sont en attente depuis des mois et des mois, voire des années, de gens qui sont des réfugiés, qui vivent ici, qu'on paye justement pour en attendant qu'ils aient qu'il y ait une reconnaissance de leur statut ou non. Est-ce que c'est réaliste de penser qu'on va aller chercher ces pouvoirs-là?
Mais d'abord, il faut qu'on active tous les leviers qu'on a là. Sur notre tableau de bord, comme État québécois, il y a des choses qu'on fait mieux, mais qu'on peut faire encore mieux. Avant notre arrivée, là, les Québécois, les immigrants sélectionnés par le gouvernement du Québec étaient environ 50-60% à parler français. Maintenant, le gouvernement du Québec sélectionne environ 80% d'immigrants francophones dans la catégorie économique. Ça, c'est dans notre cours. Donc, faisons bien et mieux nos devoirs comme gouvernement du Québec. Visons là, d'atteindre tout près de 100% parmi les immigrants qu'on sélectionne nous-mêmes. Et évidemment, on va continuer de travailler avec le gouvernement fédéral pour que les immigrants qui sont de la réunification familiale, les immigrants qui sont des réfugiés, ben, on les sélectionne mieux, on les accompagne mieux, on les francise plus rapidement, puis que les délai administratif du fédéral soit plus acceptable. Écoutez, là, les gens qui traversent Roxham en ce moment, ça prend deux ans avant de savoir s'ils sont réellement acceptés comme réfugiés. Puis pendant ce temps-là, c'est le Québec qui a la facture. Donc, il y a de la place à amélioration du côté du fédéral, mais je vais vous dire, du côté du provincial aussi, même si on a fait beaucoup, là, on va continuer.
Bon, vous êtes l'ancien ministre de l'Éducation. Est-ce que, à votre avis, les cours de français qu'on donne dans nos écoles, quand les enfants sortent, par exemple, du primaire puis du secondaire, ils sont bien outillés pour en français. Est-ce qu'on a, ils sont suffisamment performants en français? Moi, je vais vous dire, là, moi, j'enseignais au cégep, là, puis les jeunes que je voyais, j'enseignais le journalisme, puis les jeunes que je voyais arriver au cégep, je vais vous dire une chose, ça faisait pitié en français, là.
Mais on peut toujours faire mieux, M. Lacroix. C'est sûr qu'on peut améliorer les choses. Évidemment, on a eu des années difficiles là, avec la COVID, mais la COVID n'exclut pas tout. Puis avant la COVID, c'était pas parfait non plus. On va laisser mon collègue là, Bernard Drainville s'approprier tous ces dossiers, mais je suis convaincu que le chantier de l'amélioration du français, c'est un des chantiers qu'il va vouloir mettre de l'avant dans les prochaines années.
Mais je vous ai demandé votre avis sur la qualité du français qu'on donne.
Mon avis, c'est qu'on peut faire mieux encore.
Quand vous étiez ministre de l'Éducation, est-ce que vous avez songé à améliorer les cours de français, je sais pas, peut-être en faire plus, donner davantage de cours de français? C'est pas normal qu'un jeune qui sort du secondaire soit pas capable d'écrire convenablement sans faire de faute.
Mais je pense que la meilleure manière d'améliorer la maîtrise de la langue française, c'est de favoriser la formation continue des enseignants. Puis on a, avec la loi 40, on a mis pour la première fois l'obligation de formation continue des enseignants.
Attendez.
Ils veulent du temps. Ils veulent du temps.
Mais pourquoi vous dites que le résultat, vous faites le lien que le résultat des jeunes qui sortent du secondaire, c'est lié à la formation des enseignants? Les enseignants enseignent pas suffisamment bien le français aux jeunes?
Il ne s'agit pas de dire qu'ils enseignent mal. Moi-même, quand j'enseignais longtemps, pendant 17 ans, des fois, ce que je faisais, c'est que je voulais aller à une formation, je voulais aller à un colloque, je voulais aller à un congrès. Les budgets n'étaient pas là pour me permettre de le faire très souvent. Et c'était pas encourager la formation continue. Là, maintenant, ça devient une obligation. Il ne s'agit pas de dire que les enseignants n'ont pas les compétences ou ne veulent pas être formés, mais c'est qu'il faut les aider. Il faut les aider dans leur démarche de formation continue. Vous savez, on appelle ça les sciences de l'éducation parce qu'on apprend des choses sur les meilleures façons d'enseigner au fil des années. Ben, il faut nourrir cette soif-là des enseignants de toujours faire mieux.
OK. Mais OK, donc le problème vient des enseignants du fait qu'ils n'ont pas suffisamment de formation continue. Mais c'est ça que vous me dites, là, M. Robert.
Vous mettez des mots.
Non, c'est pas moi qui mets les mots dans votre bouche. Vous avez dit ça.
Une des solutions, c'est la formation continue des enseignants. C'est pas la seule. J'ai pas dit que c'est un problème qu'ils sont mal formés. Ce que je dis, c'est qu'ils peuvent se former encore mieux. Et c'est ce qu'ils veulent. Ensuite, on demandera à mon collègue s'il faut revoir le programme de formation en français, s'il y a d'autres leviers à activer. Et là, on verra pour la suite.
Je vais terminer avec une nouvelle de ce matin aussi dans le journal de Gazette qui dit qu'il y a 304 000 enfants au Québec qui sont éligibles à l'école anglaise, c'est-à-dire qu'ils ont des droits constitutionnels, c'est-à-dire l'enseignement des minorités en anglais. Et c'est en hausse, ça, je pense, n'est-ce pas?
Est-ce que ça représente un problème? Je crois pas que ça soit un problème parce que ce qu'on voit au fil des années, c'est qu'il y a de moins en moins d'élèves qui fréquentent le réseau anglophone, les commissions scolaires anglophones versus les centres de services scolaires francophones. Quand on dit là, qu'il faut inverser la tendance du déclin du français, je pense pas là, qu'il y ait une tendance qui soit négative dans le réseau scolaire. Il y a de plus en plus d'élèves dans le réseau francophone. Il y a de moins en moins d'élèves dans le réseau anglophone. Les chiffres sont clairs à cet égard-là.
Monsieur Roberge, merci d'avoir été avec nous et bonne chance dans votre nouveau mandat.
Merci, Monsieur Lacroix.
Au revoir. Jean-François Roberge. Et le ministre, il y a un ministère avec plein de titres, là, mais celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est responsable de la langue française. Hier, c'était bien sûr le discours d'ouverture du premier ministre François Legault, discours qui a duré un peu plus d'une heure, où finalement, moi, j'ai pas l'impression d'avoir appris grand-chose. Si on a suivi la dernière campagne électorale, c'est une espèce de condensé des promesses qu'avait fait François Legault. Marc Tanguay est chef intérimaire du Parti libéral du Québec. Bonjour, Monsieur Tanguay.
Bon matin, Monsieur Lacroix.
Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez été surpris de ce que Monsieur Legault a dit hier?
Non, je pense qu'il y a personne qui est tombé en bas de sa chaise ce matin, déçu parce qu'il n'y a pas de nouvelles mesures, il n'y a rien de tangible. Vous savez, M. Lacroix, les défis du Québec, là, ça fait, dans les dernières années, sont clairement identifiés, là, on les connaît, là. C'est la pénurie de main-d'œuvre. Ouais. Depuis deux ans, c'est le coût de la vie, la santé. Hier, j'avais l'impression, M. Lacroix, que le gouvernement venait tout juste d'être élu, là, que c'était la première année du premier mandat, puis qu'il allait dire, ben, on va s'occuper des problèmes à bras-le-corps. Mais, même là, M. Lacroix, la première étape, c'est de reconnaître les crises. Puis au niveau de la pénurie de main-d'œuvre, je prends ce fil conducteur-là partout, pas juste pour nos entreprises, mais pour les missions de l'État. M. Legault a répété hier, imaginez-vous donc, c'était une bonne nouvelle. On peut pas dire que c'est une bonne nouvelle, ça.
Ben, effectivement. En tout cas, poser la question aux entrepreneurs, ils trouvent pas que c'est une excellente nouvelle, effectivement, là, mais ça indique quand même que l'économie fonctionne à plein régime encore au Québec, malgré les risques de récession, non?
Ben écoutez, M. Legault est revenu avec son obsession, puis là, je la qualifie d'obsession, hein, diminuer l'écart avec l'Ontario. On dirait qu'il a les yeux rivés sur ce seul indicateur-là. Oui, c'est un indicateur intéressant, mais ce n'est pas le seul. Pendant ce temps-là, il oublie quoi? Il oublie, entre autres, nos personnes qui travaillent dans nos palais de justice, il oublie nos éducatrices. Rappelez-vous de la citation de M. Legault, puis encore, quand vous avez les yeux rivés sur l'écart de salarial entre le Québec et l'Ontario, ça lui a fait dire l'an passé que lorsqu'il rentre un nouvel arrivant, un immigrant qui gagne moins de 56 000 $, il augmente son problème, ouvrir et fermer les guillemets. Les éducatrices ne gagneront jamais ça, 56 000 $. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a une crise dans nos palais de justice. Les greffières audiencières, le premier ministre Legault a dit on a déjà bonifié leur salaire. À la fin de leur carrière, ils gagneront pas 50 000 $.
Ouais, mais il était quand même ouvert à ce qu'on augmente encore une fois les salaires. En tout cas, Simon-Jolin Barrette l'était. Je veux qu'on revienne sur une des grandes promesses qu'il a faites, M. Legault, c'est de dire ben il faut reconstruire des barrages parce que on a besoin de 100 térawattheures là à terme si on veut réaliser nos prévisions de réduction de gaz à effet de serre. Puis selon lui, ça passe par des nouveaux barrages. On sait que la présidente d'Hydro-Québec est pas trop chaude à l'idée. Vous en pensez quoi, vous, de ça? Est-ce qu'il faut effectivement d'ici 4 ans relancer un grand chantier là dans le nord du Québec pour créer des nouveaux barrages?
Ben écoutez, moi là, puis je vais vous surprendre peut-être, M. Lacroix, mais ça, c'est un bon point du discours. Et finalement, il y a un bon point à mentionner. Le fait qu'il va y avoir une consultation. Moi, je pense qu'on a besoin d'une consultation nationale, d'une discussion nationale, justement, sur nos besoins en énergie. On veut que ce soit de l'énergie verte. M. Legault a bien ciblé là l'efficacité énergétique. Il faut aller chercher une demi-Hydro-Québec de plus. Alors, oui, l'efficacité énergétique, l'éolien, la bioénergie, moderniser les infrastructures, et il y a une des solutions qui est construire un barrage. Moi, je souhaite, M. Lacroix, puis on va le prendre au mot, puis on va participer, qu'il y ait une conversation nationale là-dessus. Parce que construire un barrage, c'est excessivement coûteux. C'est sur 15 ans, comme il l'a mentionné. Il y a évidemment nos relations avec les Premières Nations. On peut pas décider ça sur un coin de table. Alors, j'espère, pour l'avenir énergétique du Québec, qu'on va avoir une consultation digne de ce nom-là. On a tous vu, notamment, Gem Hydro, qui faisait une bonne... cette pièce de théâtre qui faisait une bonne présentation, très, très accessible sur les défis énergétiques. Puis, c'est pas vrai qu'il y a une solution magique qui serait de dire on va construire un barrage. Ouais. Mais ceci dit, on n'est pas fermé, mais ça prend une discussion nationale. Mais
les grands ouvrages qui ont été lancés au Québec au cours des dernières décennies, c'est les libéraux qui les avaient lancés quand même, là. La Bay James, puis tout ça. Alors, est-ce que le Parti libéral d'aujourd'hui serait contre ça?
Non, on part pas en disant qu'on est contre. Non, pas du tout. Par contre, ça nous prend bien évidemment une discussion nationale là-dessus. C'est des milliards de dollars. C'est un projet sur 15 ans. On peut pas décider ça en vase clos. Alors, ça prend... Et puis, vous l'avez bien dit, c'est avec notamment Robert Bourassa, la Bay James, et ainsi de suite. Alors, mais c'est une voie sur laquelle le Québec s'engagerait, qui demanderait beaucoup, beaucoup d'efforts, notamment financiers.
Bon, je veux terminer, M. Tanguay, parce que le temps nous presse un peu, mais aujourd'hui, là, les trois députés du Parti québécois veulent entrer en chambre pour siéger. Puis ça amène donc la nouvelle présidente, Nathalie Roy, à prendre une décision. Hier, vous avez dit que vous n'étiez pas contre le fait qu'on adopte rapidement une loi qui rendrait, pas essentiel ou pas obligatoire le serment au roi. Et c'est un changement d'attitude de votre part, ça?
Ben écoutez, nous, là, je veux dire, le serment au roi, clairement, là, c'est dépassé. Au Québec, en 2022, c'est dépassé. Oui, on est prêt à changer la loi, puis on est prêt à travailler rapidement. Moi, j'aurais souhaité, je souhaiterais toujours qu'il y ait des consultations. Vous savez, M. Lacroix, ça a fait couler tellement d'encre, puis ça a occupé tellement de temps d'antenne, cette question-là. Je pense qu'on aurait pu se permettre, et toujours, je le crois, une consultation. Ceci dit, nous n'en faisons pas une condition sine qua non. Si le gouvernement dit non, nous, on veut faire adopter la loi, évidemment, on va la lire, on va l'analyser, mais on va vouloir procéder rapidement, puis on va collaborer là-dessus.
Est-ce que vous êtes d'accord pour que les trois députés du Parti québécois siègent aujourd'hui?
Ben ça va. C'est la présidence qui va nous le dire. Hein. C'est pas à moi de dire ils siègent ou ils siègent pas. Je pense que la présidence a très bien lu, Mme Roy, Nathalie Roy a lu la décision de François Paradis. Moi, mon petit doigt me dit qu'elle va l'appliquer. Puis rendu là, ben c'est pas à moi de décider. C'est à personne d'autre qu'elle a décidé s'ils siègent ou pas. Là.
Bon, on entend des suggestions de gens qui disent ben on pourrait peut-être leur permettre de siéger, mais sans avoir un droit de vote. Est-ce que ce serait acceptable?
Ben, encore une fois, la manière dont on se comporte au Salon Bleu, c'est à la présidence de nous le dire. Est-ce que ce serait acceptable, rendu là, qu'il s'assoie, mais qu'il n'y ait pas de droit de vote? Je vous dis, ça serait quoi? Ça serait des demi-députés à ce moment-là. Ouais. Alors, je pense que on aimerait ça qu'ils viennent travailler. Ils sont aussi légitimes que les 122 autres, mais on aimerait ça qu'ils viennent travailler, puis avec tous les pouvoirs aussi. Mais pour ça, la présidence va nous dire la marche à suivre, là.
M. Tanguay, merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Bonne chance.
Au revoir, M. Lacroix. Au revoir.
L'essentiel de Louis Lacroix, pour ne rien manquer de l'actualité.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Alors, la saison des virus frappe fort dans les écoles. Les élèves sont nombreux à s'absenter. On dit même qu'ils sont plus nombreux qu'à l'époque d'Omicron. Là, il y a un an, vous savez, ce qu'on faisait dans les écoles, c'est que les enfants avaient le masque, puis il y avait Omicron, puis tout ça. Là, lundi dernier, ils étaient 158 000 élèves absents dans tout le Québec. C'est 8 000 de plus que la semaine précédente. Ça frappe, bien sûr, toutes les régions du Québec. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on en fait suffisamment pour essayer de protéger les jeunes à l'école? éviter que ça se transmette également. La présidente de l'Association montréalaise et direction d'établissements scolaires est Mme Kathleen Legault. Elle est avec nous. Bonjour, Mme Legault.
Bonjour, M. Lacroix.
C'est quoi la situation dans les écoles de la région de Montréal? Est-ce que c'est pire que c'était l'année passée, comme les statistiques semblent démontrer?
Oui, oui, on a plus d'absents qu'on avait l'année passée à la même époque. Puis c'est variable d'une école à l'autre, mais quand le virus se propage, parfois on a 4, 5, 6 élèves absents par classe, donc c'est beaucoup. On n'est plus dans le 1, 2, 3 comme au début de l'automne.
Ouais. Alors, quelle est la... Parce que souvent les parents le savent pas. Qu'est-ce que je fais avec mon jeune? Le nez coule, puis il y a un rhume, puis est-ce que je l'envoie à l'école, je l'envoie pas à l'école? C'est quoi les recommandations que vous faites aux parents?
Bien, quand les enfants sont à l'école, ils doivent être aptes à faire les activités de l'école. Puis, évidemment, quand ils ont de la fièvre, ils doivent rester à la maison. Donc, un enfant, des fois, les enfants vont bien le matin, puis le parent nous le reconduit en nous disant, ben il va bien ce matin, si ouais. ça change, rappelez-moi. Puis, ben des fois, il faut rappeler le parent parce que l'état de l'enfant se détériore. Mais un enfant qui tousse un peu, ben on va lui recommander de porter un masque, puis on en a à ce moment-là. Mm-hmm. Puis donc je vous dirais que l'important, c'est que les enfants malades restent à la maison.
Bon, il y a quoi? Il y a 3 semaines maintenant, la santé publique, le docteur Boileau, avait fait une recommandation à l'ensemble des Québécois de dire, ben quand vous allez dans des lieux publics où il y a un rassemblement de gens dans un milieu clos, ben portez un masque sans l'obliger. On en faisait une forte recommandation. Mais on avait écarté les écoles de cette recommandation-là. Est-ce que vous étiez d'accord avec ça?
Concrètement, actuellement, les adultes et les jeunes qui veulent porter un masque le portent déjà. Donc, je suis pas certaine qu'une recommandation mm-hmm. changerait quelque chose. Allez dans le métro, vous allez le constater. Malgré les recommandations, très peu de gens portent le masque.
Ouais. Alors, mais c'est dur à appliquer avec des enfants aussi, évidemment. Et je pense que en tout cas, moi, mon impression, c'est que les désavantages seraient plus importants que l'avantage, n'est-ce pas?
Absolument. Ben, les enfants nous ont démontré qu'ils pouvaient s'adapter au port du masque pendant la pandémie. Ils ont été extraordinaires. Mais en même temps, on s'est rendu compte que ça nuit à l'apprentissage puis ça ouais. nuit à la socialisation. Donc, évidemment, les gens qui prennent les décisions doivent tenir compte aussi des impacts négatifs du port du masque.
Est-ce qu'il y en a des enfants en ce moment qui le portent dans les classes parce qu'ils le veulent? Ça doit être très rare, hein?
On en a dans nos écoles. Parfois, il y a quelqu'un de plus fragile à la maison ou il y a des cas de vulnérabilité personnelle. On en voit un peu plus au secondaire qu'au primaire. Puis, il y a des adultes aussi, là, des enseignants ou autres intervenants qui choisissent de porter le masque. Mais je vous dirais que c'est marginal.
Ouais. Est-ce que ça a un impact également sur les enseignants? Parce que nous autres, juste ici, là, à la station, il y a plusieurs personnes qui ont eu la grippe puis qui sont pas là parce qu'ils veulent pas contaminer les autres, mais qui sont malades un peu. J'imagine que ça doit être la même chose dans les écoles, là. Est-ce que les enseignants sont aussi touchés en grand nombre?
Non, ils sont pas touchés en grand nombre. On a quelques absents, mais je vous dirais que c'est en petit nombre. Et maintenant que les gens ne doivent plus être isolés quand ils ont la COVID, mais ouais. porter un masque, on n'a pas plus d'absents que d'habitude là, chez le personnel des écoles.
Bon, c'est au moins ça.
Oui, c'est exactement ça.
Merci beaucoup, Mme Legault, d'avoir été avec nous.
Ben, merci.
Au revoir. Kathleen Legault est présidente de l'Association montréalaise des directions d'établissements scolaires. Peut-être de bonnes nouvelles pour les gens qui souffrent de la maladie d'Alzheimer ou qui ont des gens dans leur famille, parce que souvent c'est un facteur d'hérédité. La 15e conférence sur les essais cliniques sur la maladie d'Alzheimer qui se tient actuellement à San Francisco, hier a fait état d'une avancée, d'un possible médicament qui retarderait la progression de la maladie d'Alzheimer. Il s'agirait d'une avancée importante, la plus importante depuis les 20 dernières années. On va d'abord parler au docteur Serge Gauthier, qui est directeur de l'unité de recherche sur la maladie d'Alzheimer au Centre de recherche Douglas et professeur à l'Université McGill. Bonjour, docteur Gauthier.
Bonjour de San Francisco.
Oui, vous êtes en direct là-bas, hein? Vous êtes actuellement à San Francisco. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous saviez qu'on allait parler de ça? Et qu'est-ce que c'est cette nouvelle-là? Expliquez-nous un peu l'importance que ça a.
C'est très important parce que c'est un médicament qui a été bien évalué de façon rigoureuse. Et les présentations qui ont été faites ici au Congrès ont été faites en même temps que l'article était mis en ligne par le journal New England Journal of Medicine, ce qui permet à tout le monde de regarder les chiffres tranquillement après, puis de vérifier si l'information est claire. Et c'est vraiment une étape importante dans l'histoire du traitement de la maladie d'Alzheimer.
Bon, qu'est-ce que c'est ce médicament-là? Ça s'appelle lecanemab.
Oui.
J'espère que commercialement, ils vont trouver un nom plus facile, mais pour l'instant, il s'appelle comme ça.
Sûrement. C'est un anticorps qui est donné par voie intraveineuse aux deux semaines.
Oui.
C'est donc déjà un problème de logistique. Là, il faut trouver quelqu'un pour donner l'injection. Mais si la personne veut ses injections et on a les ressources pour le faire, on sait comment le faire maintenant. Il y a eu quand même des milliers de personnes qui ont eu ce traitement. Je prédis que Santé Canada va l'accepter d'ici un an ou deux. Et on commence déjà à se préparer entre cliniciens pour l'arrivée de ce médicament.
Alors, le médicament retarde de quelle façon la maladie? Est-ce que les effets sont notables? Est-ce que ça retarde de façon significative? Ou quelles sont les données à cet effet?
Alors, il y a deux types de données. Il y a l'effet qu'on peut voir dans le cerveau. Les plaques d'amyloïde qu'on voit au scan cérébral diminuent considérablement après 12 mois à 18 mois de traitement. Certaines personnes, c'est plus rapide que d'autres. En parallèle, il y a un léger déclin de votre capacité de fonctionner dans la vie de tous les jours. Mais avec le groupe placebo, parce qu'il y avait un groupe contrôle ou placebo en même temps que ceux qui recevaient le vrai médicament, eux, ils déclinent plus rapidement. Et l'étude a duré 18 mois et puis les courbes de déclin, les lignes droites qu'on peut faire, si on les prolonge d'un autre 6 mois ou 12 mois, là, on commence à avoir des effets importants sur un retard. Donne un exemple, si vous avez des oublis légers dans votre vie de tous les jours, vous pouvez quand même fonctionner avec des trucs. Et si c'est dû par la maladie d'Alzheimer, ce traitement-là va retarder la progression vers une démence où vous ne pouvez plus conduire, vous ne pouvez plus travailler de quelques mois. Et c'est possible que avec le temps, l'effet soit encore plus marqué. L'autre question qui n'est pas réglée, c'est est-ce qu'on peut arrêter le traitement après 12 mois ou 18 mois, et puis les gens sont comme en rémission? On a diminué le fardeau de cette protéine dans le cerveau. Est-ce qu'il y a un effet soutenu par après?
Ouais.
Ça, c'est une question à débattre ici au Congrès et dans d'autres systèmes.
Mais on dit que ça réduirait de 27% la progression de la maladie. Ça veut dire que ça ne l'arrête pas complètement. Là. Ça continue. Il continue à y avoir une dégénérescence, mais plus lente, c'est ça?
Oui, et ça nous permet d'ajouter, en même temps qu'on donne ce médicament ou par après, d'autres traitements. Ça, c'est l'autre grosse réflexion à ce congrès. Est-ce qu'on ajoute un médicament pour l'inflammation, un peu comme pour l'arthrite? Est-ce qu'on ajoute un médicament pour l'autre protéine, la protéine tau, qui est dans les cellules nerveuses? Est-ce qu'on donne un programme intensif d'exercice physique, de stimulation intellectuelle, surveiller votre diète, etc.? Alors, c'est comme une première étape importante, mais maintenant, on pense déjà, après l'amyloïde, qu'est-ce qu'on peut modifier pour vraiment ralentir ou arrêter la progression.
Bon, je voyais quelques obstacles cependant là, parce que bon, vous y avez fait allusion tout à l'heure. Ce sont des injections qu'on doit donner. Ça implique que c'est plus contraignant comme traitement que par exemple prendre un comprimé le matin au soir là. Alors, il y a ça, mais il y a aussi le coût de ce médicament là qui est assez élevé, n'est-ce pas?
On n'a pas de coût encore. C'est la compagnie qui va décider. C'est sûr que ça sera pas aussi élevé que l'autre molécule aducanumab, qui avait été approuvé seulement aux États-Unis et qui n'a jamais été utilisé parce que personne ne voulait le payer.
Ouais.
C'était des prix ridicules. Je suis sûr que la compagnie Eisai ne fera pas la même erreur. L'autre considération, pour aussi rassurer peut-être les auditeurs, c'est qu'en parallèle à ces essais avec des médicaments intraveineux, il y a un autre médicament qui a été inventé à Montréal, le Tramiprozat,
ouais,
du Dr. Bellini, qui est encore à l'essai. Modifié pour être plus facile à digérer. Ça se prend par la bouche, comme vous disiez, une pilule deux fois par jour. Et on va voir les résultats de cette autre étude plus tard aujourd'hui. Alors, les injections intraveineuses, c'était juste pour 3-4 ans. Après ça, on passe à des médicaments qui se prennent par la bouche. Et ensuite, on aura une variété de traitements selon le type d'Alzheimer que vous avez.
OK. Alors, il y a quand même de bonnes nouvelles. Les effets secondaires, cependant, de ce que j'ai lu, en tout cas, semblent assez sévères, n'est-ce pas?
Alors, c'est effectivement, dans les 3 à 6 mois du début du traitement, quand vous enlevez l'amyloïde du cerveau avec l'anticorps, l'amyloïde qui est dans les vaisseaux sanguins aussi est enlevé, donc les vaisseaux sont plus perméables. Il y a un risque d'édème. Le cerveau peut être un peu comme enflé par certaines régions ou beaucoup. Ou il peut y avoir une hémorragie aussi. Par contre, on sait comment surveiller pour ça. C'est le genre de surveillance qu'on peut faire avec des scans du cerveau. Il faut avoir accès aux machines. Donc, ça, c'est un autre aspect de logistique sur lequel on va travailler.
Bon, alors, et quand même, c'est positif. Je sais que je dois vous laisser aller, Dr. Gauthier, mais il reste que c'est encourageant, tout le moins, là, ce qu'on découvre et ce qui est révélé à cette conférence-là, n'est-ce pas?
On a comme brisé un mur, qu'on peut enlever l'amyloïde et voir qu'il y a un effet clinique. Ouais. C'est la première fois. Et ça ouvre la porte pour, OK, qu'est-ce qu'on fait en plus pour avoir vraiment un contrôle de la maladie?
Docteur Gauthier, merci d'avoir été avec nous.
Un plaisir. Bonne journée.
Au revoir. On va maintenant parler au professeur Jude Poirier, qui est professeur titulaire au département de médecine et de psychiatrie à l'Université McGill. Il est chercheur, notamment en ce qui concerne la maladie d'Alzheimer. Il n'est pas à San Francisco, il est à Montréal, mais il suit ça de près. Bonjour, docteur Poirier.
Bonjour.
Alors, vous, est-ce que vous êtes aussi optimiste qu'à peu près tout ce que j'ai lu depuis depuis 24 heures? Les gens sont... Il y a quand même une espèce de vague d'optimisme. On avait l'impression que depuis quelques années, bon, on faisait des découvertes, mais on n'avançait pas vraiment. Puis là, on a l'impression que cette découverte-là, en tout cas, donne un élan.
Vous avez tout à fait raison. En fait, je vous dirais que j'étais parfois découragé de faire des entrevues avec des gens comme vous. J'arrivais jamais avec des bonnes nouvelles.
Ouais.
J'arrivais toujours. Et je leur disais, écoutez, non, la science avance, ça va bien. On comprend si on peut faire ça, on fait si. Maintenant, on peut faire des tests sanguins. Puis on sait quand la maladie commence 5, 10, 15 ans avant. Puis là, les gens me disaient, oui, mais on fait quoi avec ça? Ben, c'est ça. On attend toujours d'avoir un médicament. Ce matin, on peut le dire. On a entrouvert la porte. Je vous dirais pas qu'on a on a trouvé la solution. C'est un excellent début. On a le pied dans le cadre de porte. On a trouvé une façon de ralentir. Oui, ça va être compliqué. La logistique, le coût. Je suis moins enthousiaste que le Dr Gauthier parce que j'ai peur que ce soit tentant de demander des prix élevés. J'espère que, justement, on va me dire que j'ai tort. Et je souhaite qu'on me dise
Et j'imagine que, surtout au début, il va y avoir un phénomène de rareté qui va faire en sorte que les prix vont être très élevés, là.
Oh, vous savez, quand c'est payant, il n'y a pas de rareté.
Non.
Bon, vous l'avez vu avec le vaccin, hein, le vaccin pour la COVID.
Ouais.
Les pays qui ont payé, ils en ont eu.
OK, c'est ma grande naïveté, je suis désolé.
Non, mais écoutez, c'est le monde des affaires, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que non, ça m'inquiète pas. C'est beaucoup plus après les infrastructures. Vous savez, les centres d'injection, là, on peut pas penser ben que notre beau système de santé qui a de la misère à rester en équilibre va pouvoir. Écoutez, il y a 153 000 Alzheimer au Québec, juste au Québec.
153 000?
Ouais, fait qu'imaginez qu'ils décident qu'ils veulent l'avoir, ça, parce que le gouvernement offre de payer. On soit juste pas capable. Il va falloir qu'on ait des outils, qu'on mette ça en place lentement. Dr Gauthier l'a mentionné. On peut pas donner ça puis renvoyer la personne chez elle. Il faut faire des scans du cerveau assez régulièrement pour surveiller les fameux accidents vasculaires.
Ouais.
Ils sont pas rares. C'est un patient sur 7, un patient sur 6.
Quand même, il y a une incidence. On s'énervait avec le vaccin de la COVID quand on avait un cas sur 100 000, là, c'est beaucoup plus important, là.
Exact. Non, c'est vraiment une autre catégorie. Il faut voir ça comme les médicaments injectables qu'on utilise pour le cancer. On a le même genre de problème. On fait des injections intraveineuses, il faut aller à l'hôpital, contrôler tout ça et faire des suivis avec plein de tests biologiques pour s'assurer que le médicament en question ne va pas affecter d'autres organes que celui qu'on essaye d'inhiber avec le médicament.
Bon, et en plus, c'est un nouveau médicament. Alors, j'imagine que on va affiner la façon de le donner aussi. On va peut-être modifier la molécule ou essayer de tu sais, on part de quelque chose qui est brut et on va l'affiner éventuellement pour avoir une meilleure efficacité et de moindres conséquences, j'imagine.
Vous avez tout à fait raison. Donc, malheureusement, la première version doit être approuvée telle qu'elle a été testée. testé dans l'étude dont on parle ce matin.
Ouais.
Donc, on ne pourra pas faire différemment de ce, de la façon dont ça a été testé. Mais je sais qu'ils ont déjà commencé des études préliminaires avec non pas une injection intraveineuse, mais une espèce d'injecteur à ressort qu'on, avec une petite aiguille qu'on envoie sous la peau. C'est très commun en diabète. Là.
Ouais.
Les gens, ils s'auto-administrent leurs médicaments une fois par semaine. Un petit clic sur le bouton, c'est mis un petit ressort là-dedans, puis boum, le médicament est sous la peau, puis il fait son travail.
Ouais.
Ils sont en train d'examiner ça pour essayer de se débarrasser de la composante intraveineuse. Mais ça, on va avoir les résultats probablement juste dans le courant de l'année prochaine, peut-être l'année d'après. Et puis évidemment, ben, après ça, on va raffiner en termes de peut-être la façon dont la molécule va être enrobée pour essayer de minimiser encore plus les effets secondaires.
Bon, est-ce qu'on pourrait imaginer dans un avenir proche là que les patients, les 153 000 patients auxquels vous faisiez référence tout à l'heure, pourraient avoir accès à ce médicament-là?
Ben écoutez, ça va être une question d'argent. T'sais, je pense que vous comprendrez que le Québec a pas les moyens. Même si c'est pas cher, là, je vous dirais, on va vraiment suivre une stratégie semblable au cancer. Vous savez que les fameux médicaments anticancéreux qu'on dit ultra spécialisés, là, qui visent comme un peu comme des têtes chercheuses de missiles, ils visent le cancer, c'est le dernier recours. L'injection coûte autour de 50 000 $ par année. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par la fameuse chimiothérapie qui vous fait perdre vos cheveux puis qui vous rend malade. Puis si ça, ça fonctionne pas, on vous fait passer à un autre. Puis finalement, en bout de ligne, vous avez droit à la thérapie, je vais l'appeler de luxe, qui souvent marche très, très bien. C'est ça qui est frustrant. Mais le gouvernement peut pas se permettre de donner à tous les gens qui ont un cancer la meilleure des meilleures en partant. Je veux dire, il y aura plus de budget pour la santé.
Ouais.
Donc, C'est malheureusement la réalité de ce genre d'approche.
Bon, on parlait tout à l'heure, évidemment, de 153 000 personnes au Québec, mais c'est pas tout le monde qui pourrait être éligible sur le plan physiologique à avoir un médicament comme celui-là. J'imagine que ça doit être plus efficace dans les stades moins avancés de la maladie, j'ai l'impression, non?
Bien, je pense que le gain va être plus marqué et le bénéfice va être plus long plus on s'y prend tôt. Ça, vous avez tout à fait raison. Deuxièmement, je pense aussi qu'il faut réaliser l'administration de ces médicaments-là. Elle va probablement être terriblement importante, non pas au moment où les symptômes apparaissent, mais si on peut identifier des gens qui sont à risque, et ça, c'est les scans cérébrales puis des tests sanguins très particuliers, et 5 ou 10 ans avant l'arrivée des symptômes. Et là, ce qu'on fait, c'est pas de ralentir la maladie, c'est de la repousser dans le temps, en espérant finalement que les gens, parce que c'est une maladie du vieillissement, ben, qui meurent de d'autres maladies, mais pas de la maladie d'Alzheimer.
Ouais, un peu comme l'approche du SIDA entre autres choses, hein, où on a amené des médicaments qui font en sorte que aujourd'hui une personne qui a le SIDA ne meurt pas nécessairement de la maladie parce qu'il est suivi de façon médicamentée. Mais une autre question, il y a quelqu'un qui m'écrit, est-ce qu'on pourrait retrouver les facultés perdues? J'ai l'impression que non, hein.
Non, malheureusement, non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce qu'on veut, ben, ce qu'on a entre les mains présentement, c'est une façon d'atténuer. Pour vous donner ça en exemple concret, ce serait d'entrer, mettons, plus tard en CHSLD. On reporterait l'arrivée dans un CHSLD de 2, 3, peut-être 4 ans. Ça a l'air de rien, mais ce serait énorme. Mais c'est pas ce que les gens veulent. Les gens, ils veulent que ça arrête.
Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est chercheur comme vous, là? Est-ce qu'on part d'une base qui, comme celle-là, qui vient d'être présentée, ou encore on continue à chercher dans d'autres secteurs pour peut-être trouver d'autres façons de contourner la maladie?
Ben, je vais vous le dire très, très franchement. L'amyloïde, c'est un des joueurs de la maladie, mais c'est pas la cause de la maladie d'Alzheimer, la forme ordinaire, celle qu'on connaît. C'est un des joueurs et on sait qu'on en a probablement une 60aine de ces joueurs-là. C'est un des principaux. Il y en a 4 ou 5 autres principaux sur lesquels on travaille tous. Donc, probablement que le traitement de l'Alzheimer dans 5 ans, dans 10 ans, ça va être comme dans le diabète, une combinaison de 2 ou 3 médicaments simultanément qui vous arrêtent la maladie complètement, mais chacun avec un mode d'action différent.
Ah bon, OK. Alors, ça, autrement dit, on pourrait arriver avec différents types de médicaments qui vont agir soit pour freiner la maladie ou la ralentir, comme dans ce cas-ci, ou encore aller jouer sur les causes de la maladie directement. Alors, on pourrait travailler sur plusieurs fronts.
Exact. Ouais. C'est ce qu'on fait, en fait. Aujourd'hui, si vous me demandez, là, c'est exactement ce qu'on fait.
Ouais. Et quelles sont les autres avancées qu'on pourrait annoncer dans ce, cette espèce de congrès, là, qui se tient à San Francisco? Est-ce qu'il y a d'autres avancées qui vont être annoncées bientôt?
Oui, il y en a d'autres qui vont être annoncées qui sont aussi, je dirais, intéressantes, peut-être pas aussi percutantes, mais très intéressantes. Vous savez, la maladie d'Alzheimer, il y a une composante génétique. Bon, ça c'est un peu plate, la génétique, on hérite des gènes de nos parents, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais on sait que dans la composante liée à notre style de vie, vous avez des facteurs de risque comme le cholestérol, comme le diabète. Mais si on joue sur ça, on arrive à améliorer le risque d'Alzheimer et ces médicaments-là sont sous étude présentement.
Docteur Poirier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça a été un plaisir de vous parler.
Merci beaucoup.
Au revoir. Le professeur Jude Poirier est chercheur sur la maladie d'Alzheimer. C'est tout pour nous. Merci d'avoir été là. On se reparle demain à compter de 5h30. Au revoir.
L'essentiel de Louis Lacroix. Merci d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous demain.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.